Ce shiur est dédié à la réfoua de tous les blessés de la guerre et entre autres à la réfoua de Rachel, Bat Rachel, Torkosha Chole, Am Israël. Hier on a parlé de la guerre, de Hezbollah, un peu de tous les phénomènes qu'il y aura avant la venue du Mashiach, en plus qu'on appelle la fin des temps. Et là un jeune homme qui était absent hier nous demande de reparler de cela, mais pas de la guerre, vu qu'on parle de la paix. Bon, alors c'est un sujet intéressant, la paix aussi, parce que il n'y a pas de sujet qu'on a autant rappelé dans l'histoire que la paix. Tout le monde veut la paix. Juste avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une assemblée avec Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier. Chacun a dit nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. Et puis je crois qu'un mois après, la guerre a éclaté. La paix, c'est un message que tout le monde crie. Et ça fait combien, 59 ans bientôt que cet État existe. Et on parle de la paix. Je me souviens de ma jeunesse, il y avait Kissinger, d'accord, qui était envoyé spécial de l'Amérique pour mettre la paix. Et puis, les années passent, et les générations passent, et la paix, il n'y a pas. Et on en parle, il n'arrête pas de parler, nous voulons la paix, nous voulons la paix, nous voulons la paix. C'est quand même assez extraordinaire. Alors je dis tout de suite, il n'y aura pas la paix. C'est extrêmement non médiatique comme message, il n'y aura pas la paix. C'est impossible. La paix est appelée Shalom. Shalom, c'est un des noms de Dieu. Et on finit la Amida, la Shemona Esrei, par la Bracha du Shalom. C'est le plus haut niveau. Le Chasse, la Gemara, finit, la dernière Mishnah parle que Dieu n'a pas trouvé de keli, d'ustensile plus grand pour Bnei Israël que le Shalom. Le Shalom, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Il est impossible que le peuple d'Israël, qui est la paix dans le monde, ça se peut, entre les peuples, il n'y a aucun problème. Mais avec Israël, c'est impossible. Israël ne pourra pas être en paix tant qu'il n'y aura pas l'époque messianique. Et la raison, elle est extrêmement simple à comprendre. Il y a une parole de Chazal qui est extrêmement connue, « El Mazal l'Israël ». Comment on traduit ça, « El Mazal l'Israël » Il n'y a pas de chance pour Israël, hein. « El Mazal » n'y a pas de chance. Ah, on est les pompetifs. Les boucs émissaires de l'histoire. Alors, c'est pas du tout ça le sens profond. Mazal, ça vient du mot en hébreu, nozel. Nozel, c'est qui coule. Ça veut dire que Dieu a créé dans le monde 70 peuples. Chaque peuple a un tuyau spirituel, un canal par lequel Dieu lui donne son flux de vie. La source de vie, c'est Dieu. Dieu va donner, va créer une réalité, comme on a une réalité qui est physique, il y a des lois physiques, des lois métaphysiques, d'accord? Pour recevoir le flux de vie de Dieu, tu dois avoir droit, chacun il a un mazal, chaque personne, chaque être humain il a un mazal. C'est quoi son mazal? C'est pas son ange, c'est le tuyau qui le relie avec Dieu, par lequel il reçoit son flux. Il reçoit son mazal quoi, il va se marier, il a un mazal qui décide combien il aura de parnassa, combien il aura d'argent cette année, son état de santé, tout, ça c'est le mazal. Maintenant, le peuple d'Israël n'a pas de mazal. C'est-à-dire que Dieu a créé 70 canaux reliés aux 70 peuples. Il y a plus de 70 peuples aujourd'hui, mais on a 70 têtes de peuples, 70 qui peuvent se multiplier encore en plus. Et je peux que, par exemple, je ne sais pas moi, les Allemands, les Suisses-Allemands, c'est une entité. Les Suisses italiens, ça va avec l'Italie, les Suisses romans, ça va avec la France, il n'y a plus de Suisse, d'accord? Ça se peut par exemple, je ne sais pas. Il y a des bleus, il se peut que l'Uruguay et le Paraguay, c'est le même, la même sauce, d'accord? Je ne sais pas. En tout cas, il y a 70 peuples. Chaque peuple a un canal spirituel, métaphysique qui le relie à la source de Dieu. Par ce canal vient le flux à ce peuple. Le flux, est-ce qu'il y aura la paix ou la guerre? Est-ce qu'il y aura une économie réussie? Est-ce qu'il y aura des épidémies? Tout ce qui se passe maintenant dans ce pays, dans ce peuple-là, est régi par ce canal. Le peuple d'Israël n'a pas de canal. Pourquoi? Il n'a pas droit à la vie. Abraham Avinu, notre ancêtre, il regarde, c'est marqué qu'il regarde les cieux, il regarde au niveau astronomique les étoiles, il voit qu'il n'a pas de descendance. C'est quoi les étoiles? Il regarde la métaphysique, d'accord? Les étoiles, c'est en fait, c'est marqué clairement, c'est un peu de l'astrologie, la base d'astrologie vient dans les écrits juifs, le Zohar, d'accord? Aujourd'hui, c'est plus, il n'y a plus personne de calibre suffisamment grand pour connaître la logique juive authentique. Mais il y a des pages et des pages dans les Zohar qui expliquent comment Dieu agit dans le monde par le biais des étoiles. D'accord, les étoiles, c'est quelque part les canaux spirituels par lesquels Dieu agit sur terre. Abraham regarde et il voit que lui n'a pas de place. Dans tous ces canaux, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de descendance. Il est stérile. Il a 99 ans. Sa femme a 99 ans. Ils ont essayé d'avoir des enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ont fait tous les instituts de fertilité, d'accord ? Rien du tout. Stérile. Dieu lui dit, je te prends au-dessus. C'est Mistagenu Sheltra. Sors de ton astrologie. Je te mets au-dessus des étoiles. Nous sommes au-dessus du système naturel, métaphysique. On est dans la supra-métaphysique. T'as la métaphysique, t'as la physique, c'est le corps. T'as la métaphysique, t'as la divinité. Nous sommes branchés directement à la divinité. De façon naturelle, on n'a pas droit à la vie. Dans la mesure où on est branché avec Dieu, on a droit. Mais là-haut, à la place, sans passer par les canaux. Mais si on n'est pas branché, on veut se brancher, avoir droit à un des canaux, tu passes pas. Oui, ta question.
Je ne pas, parce que Yesh Mazal Israël, Mazal Israël, c'est une marque dans le Mara Shabbat. Et là-bas, j'ai cru de la Maskana, j'avais lu un commentateur qui disait que En Mazal Israël, oui, mais c'est, si tu fais les mitzvot, si tu fais pas les mitzvot, il y a un Mazal, c'est-à-dire qu'il y a un Mazal avec lequel t'es né, et voilà ce qui va t'arriver dans la vie. Si tu fais les mitzvot, tu peux dépasser ce Mazal, mais sinon non.
Alors ça correspond à ce que je dis auparavant. Au niveau particulier, chacun a un mazal. Chacun a un mazal, qu'il soit juif ou goy ou n'importe quoi. L'escargot, il a un mazal, la fleur, c'est marqué que chaque brin d'herbe, il a un ange qui vient et qui lui frappe dessus, qui lui dit, monte, pousse. Il a un mazal, il a une réalité spirituelle duquel dépend sa réalité matérielle. Il ne peut pas avoir de matérialité s'il n'y a pas de vie dans la matière, s'il n'y a pas une source spirituelle. Donc tout a un mazal, et nous aussi on a un mazal. Israël, en tant que collectivité d'Israël, elle n'a pas de mazal. Ça veut dire qu'elle est branchée directement à Dieu. Dans la mesure où elle se branche avec Dieu. Mais si elle ne se branche pas, si la majorité du peuple d'Israël ne fait pas la Torah, donc c'est quoi le branchement avec Dieu ? C'est la Torah, l'étude de Torah, c'est la pratique des mitzvot. Mitzvah vient du mot Tzavtor Nebou, c'est une liaison. La Torah, quand tu étudies la Torah, tu fais un avec l'expression de Dieu. Tu connais Dieu. On ne peut pas connaître. Nous ne savons pas qui nous sommes. D'accord ? Moi-même, je ne me connais pas moi-même. Ce que je suis, moi, c'est pas mon corps. C'est quoi ? C'est la chose qui pense, c'est la chose qui veut, c'est la chose qui désire. Mais c'est quoi cette chose ? J'ignore. De même, j'ignore ce que c'est que Dieu. On ne peut pas savoir ce que c'est que Dieu lui-même. On ne sait pas. Mais, comme je peux me connaître moi-même, ou connaître mon conjoint ou quelqu'un, pas ce qu'il pense, pas ce qu'il dit, savoir qui il est lui, je ne sais pas. Mais le connaître, tant soit peu, ce que c'est, cette chose qu'il pense, je ne sais pas. Mais ce qu'il pense, je sais. Ce qu'il désire, je sais. L'expression de l'être est le meilleur moyen de connaître qui est cet être. Connaître totalement ce que c'est l'être, on ne sait pas. Une chose qui est spirituelle qui ne se voit pas. Je veux jamais savoir qui est quelqu'un. Même ma femme que je connais très très bien, qui elle est, qu'est-ce que c'est ? Quel est son nefesh, roach, neshama ? Je ne veux pas savoir ces choses-là. Mais je la connais bien parce que je discute avec elle, il y a une communication, je connais, elle exprime sa pensée, elle exprime son désir. Donc je peux connaître quelqu'un par cette expression de son désir et sa pensée, Dieu aussi. Lui en ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il est. Je peux le connaître par expression de son désir et l'expression de sa pensée. Qu'est-ce que c'est l'expression de son désir et sa pensée ? C'est sa Torah. Donc quand j'étudie la Torah, je me branche avec Dieu. Il n'y a pas de branchement avec Dieu plus grand que l'étude de Torah. C'est pour ça que la mitzvah, la plus grande qu'il y a, c'est étude de Torah. À bon entendeur, shalom, d'accord, messieurs, vous branchez avec Dvarach, avec la parole de Dieu. Quand le peuple d'Israël se branche avec Dieu, par la Torah, par les mitzvot, alors il a droit, directement de Dieu, de façon anormale, miraculeuse. On est un peuple qui est né dans le désert. Pourquoi on est dans le désert ? On n'a pas de terre. Il y avait une terre où des gens habitaient. Dieu nous la donne, mais elle est hors du temps. C'est une terre qui est une terre promise, une terre bizarre. On voit que le peuple d'Israël habite sa terre, elle donne ses fruits. Le peuple d'Israël quitte sa terre, elle devient un désert aride. Bizarrement, alors qu'elle est très fertile. Tous les agriculteurs sont d'accord que la terre d'Israël est extrêmement fertile. Bizarrement, le peuple juif l'a quitté il y a 2000 ans. T'as 19 fois la terre d'Israël a été conquise, elle reste aride, désertique. La Gemara dans Sanhedrin, page 38 a dit, lorsque la terre d'Israël va redonner ses fruits de façon abondante, c'est le signe le plus clair comme quoi nous sommes proches de la fin de l'époque messianique. Pourquoi ? La terre reconnaît son propriétaire, le peuple juif, redonne ses fruits. Ce que nous sommes en train de vivre au prochain, le miracle agricole israélien. Rabbi Abba a dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin, plus clair que nous sommes proches de la rédemption, que le fait que tu ailles maintenant acheter des patates juives, des tomates juives, des avocats juifs. Ça veut dire d'Israël, ça prouve que nous sommes proches de la rédemption. La terre est une terre qui est spéciale. Maintenant, les peuples disent, non, tu es né dans le désert. Dans les canaux qu'il y a, chacun une terre. Cette terre appartient à d'autres personnes. Dégage. T'as pas droit à une terre. T'as pas droit à la vie. T'as pas droit à un flux. Dans les accusations antisémites, ça revient très souvent, le peuple juif, une sangsue. Ils se greffent sur une société et ils sucent tout le sang. Pourquoi ils disent ça? Ils ont raison. Parce que si tu n'es pas branché là-haut, alors tu demandes à te brancher quelque part, mais tu dis, mais t'as rien à faire ici, vous mangez le pain des Français. En France, ils disent comme ça, en Angleterre, c'est le pain des Anglais, d'accord? Il y a Rabidem, tu déranges, c'est quoi cette masse qui varie toujours entre 2 et 15% d'une population, qui est là, qui dérange, et qui réussit en plus. Ils nous volent notre pain. Et ils ont raison de dire, ça fait pas qu'on vole, mais vu qu'on n'est pas branché là-haut, on veut se brancher ici, on n'a pas droit. Donc l'inconscient collectif, c'est quoi l'inconscient collectif? C'est le mazal, c'est l'ange, c'est l'ange représentant du pays qui dit, dégage, tu nous déranges. On va sur nos terres, regardez, 59 ans qu'on habite cette terre, personne n'accepte qu'on y soit. Tous les pays, lorsqu'ils ont eu leur indépendance, les voisins n'ont pas accepté. Il y a eu du grabuge, il y a eu des guerres. 1, 2, 3, 4, 5 ans maximum, on se calme, terminé. On se calme. 59 ans que l'État d'Israël existe. Quelqu'un a accepté? Quand tu prends l'avion pour Israël, comment tu reconnais le stand El Al?
La sécurité.
Sécurité. T'as des barrières, t'as des CRS, des barbelés, des flics, des machins, des gilets pare-balles. Et quoi, on est le seul pays en guerre dans le monde? Il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres aussi qui sont en Corée du Nord, tu vas en Corée du Sud, tout ça, est-ce qu'ils ont mis des gilets pare-balles? T'as deux avions, un Corée du Nord, un Corée du Sud. À côté de ça, ils mettent des gilets pare-balles? Absolument pas. Aucun aéroport ne mobilise les tanks et les flics et les CRS que pour les avions d'Israël. Pourquoi? T'es différent, t'es pas normal, t'es pas dans la métaphysique, t'as pas droit à ta terre. On remet en question ton existence même. Il est impossible que les peuples de la terre reconnaissent l'existence du peuple d'Israël tant que le peuple d'Israël ne sera pas reconnu par Dieu. Or, la reconnaissance du peuple d'Israël par Dieu ne peut se faire que par ce branchement avec Dieu. À ce moment-là, vient Dieu lui-même, qui s'appelle Shalom, et donne un flux énorme. La présence de Dieu, c'est ça, Shalom. La présence de Dieu, c'est ça, la paix. La paix n'est possible, comme dans un couple. Il y a beaucoup d'écoles pour mettre pour avoir des psys, je ne sais pas ce qu'on va avoir, des spécialistes, pour mettre le Shalom à la maison. La paix à la maison. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait la présence de Dieu. S'il n'y a pas un Shabbat qui est plein de sainteté, s'il n'y a pas un respect de l'autre, parce que bien sûr que la kedoucha, la sainteté passe par l'aspect de l'autre. S'il n'y a pas les lois de pureté familiale, s'il n'y a pas la sainteté dans une maison, no chance. Aucune chance pour un couple juif en tout cas. Un couple juif ne peut pas vivre en shalom, un vrai shalom. Parce que, c'est quoi shalom? C'est pas qu'on ne s'engueule pas trop. Shalom, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour flamboyante, intense. Rabbi Akiva dit, si tous les livres sont saints, alors Cantique d'Antique, c'est le saint des saints. Histoire d'amour entre Dieu et âme Israël. Shalom signifie une unité extraordinaire entre Dieu et nous. Chazal disent, à la Géoula, il y aura le shalom, parce que vient dans le Mashiach. Ils disent comment ça sera. Ils disent que les peuples essayent de venir nous embêter quand Dieu va se dévoiler, quand nous, on va être maintenant en shalom avec Dieu. Ils disent, c'est comme essayer de s'insérer entre un lion et une lionne qui sont en train de s'unir, de faire des enfants. Mets ton doigt entre un lion et un lion qui font des enfants. Qu'est-ce que tu récoltes comme coup de griffe, hein? Terrible. Ça va être ça. Le seul moyen d'arriver au shalom, c'est qu'on soit branché à la source. Et tant qu'on n'est pas branché là-haut, et on veut se brancher en bas, alors Dieu nous montre la bonne leçon, tu n'arriveras pas. Et plus on veut se rapprocher des goïms, plus les goïms nous rejettent. C'est extrêmement symptomatique de voir qu'en 1937, à Nuremberg, l'État allemand va ordonner des lois de sauvegarde de la race aryenne. Interdiction pour une Allemande ou un Allemand de fréquenter, de sortir avec un petit copain juif ou une petite copine juive. Les Allemands interdisent. Comment ça se fait? C'est marqué, quand tu veux te rapprocher des non-juifs, il y a une distance de sécurité. Au bout d'un moment, plus tu veux te rapprocher, plus lui devient antisémite. Les gens croient toujours que quand tu t'habilles en tant que religieux, orthodoxe et pratiquant, tu crées l'antisémitisme. C'est faux. Les goïms, quelque part, quand ils voient un juif qui est juif, ok, alors, au moins c'est honnête. Ou ils n'aiment pas les juifs, ok, j'aime pas les juifs. Ou ils respectent. Mais quand il y a un juif qui habille comme un goï, habille comme un goï, vit comme un goï, pense comme un goï, le non-juif, il pense très bien, il sait que t'es juif et t'es quelque part différent. Il n'aime pas ça. Ça manque de franchise. Et quand les juifs veulent commencer à devenir vraiment comme les goïms, alors il y a un système, que ce soit de eux ou Dieu qui met ça, je ne sais pas d'où ça provient, mais j'imagine les deux à la fois, système de sécurité, qu'ils te mettent dehors. Ils te mettent dehors. Les plus grands pays dans lesquels il y a eu de l'assimilation, au bout d'un moment, ça s'est fini par un carnage antisémite. Comment ça se fait? Et c'est systématique. C'est pour la paix, mon cher ami. Alors, la paix aujourd'hui, évidemment, tu prends... Baruch HaShem, nous sommes en terre d'Israël, nous sommes très fiers et heureux de l'être, on remercie Dieu, on ne pourra jamais être suffisamment remercier Dieu qu'il a fait ce grand cadeau qu'après 2000 ans, on puisse revenir en terre d'Israël. Et c'est un grand cadeau. Nous appelons tous nos frères juifs à venir rapidement en Israël. Attention, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Il y a une mitzvah énorme d'habiter la terre d'Israël. C'est pas une mitzvah des 613 mitzvahs de la Torah, c'est pas... Il y a une marloket entre le Rambam Nahmanide et le Rambam Maïmonide. Maïmonide et Nahmanide. Maïmonide ne compte pas dans les 113 mitzvot le fait d'habiter la terre d'Israël. Nahmanide, oui. L'Alaha est plus comme le Rambam, comme Maïmonide. Donc ça ne fait pas partie des lois de la Torah, c'est partie des lois des Rabbanan. C'est une loi des Rabbanan. Interdiction pour un juif d'habiter l'étranger. Si ce n'est pour Parnassa, il doit gagner sa vie. Aujourd'hui, c'est la seule bonne raison pour laquelle nous disons aux gens de rester à l'étranger, parce que pas toujours quelqu'un en Israël peut s'arranger. Des fois, il arrive ici, c'est la galère terrible. La terre israélienne est une terre qui est difficile. Les Israéliens sont des gens difficiles. Il y a des magouilles. C'est un pays dur, un pays qui est en guerre depuis 60 ans. Donc, il faut venir avec une Parnassa. Deuxième raison qui permet d'habiter l'étranger, c'est pour aller trouver une femme. Mais le rabbin me dit bien, tu prends ta femme et tu l'amènes ici. Et troisième raison, c'est pour la Torah. Je n'ai pas un rabbin avec qui j'ai des atomes crochus, j'arrive pas, alors je reste à l'étranger, parce que là-bas j'ai une yeshiva, bien où je suis, où j'arrive bien à étudier. Quelqu'un qui arrive à avoir un cadre d'études comme il faut à l'étranger, et en venant ici, il ne sait pas où il pourra aller, il voit qu'il ne pourra pas se brancher à un endroit qui est bien, alors qu'il reste à l'étranger. Sinon, chaque juif est obligé d'habiter la terre d'Israël. Mais attention, c'est dangereux. Pardon, vous avez écrit ça? C'est marqué dans le Rambam, l'Echot Shoftim, chapitre 5. D'accord? Et c'est une mara entière, toute une page dans le traité Ktubot, Ktubot, page 111. Là-bas, le traité Ktubot, il dit des choses terribles. Tout ce qui habite l'étranger, comme s'il est idolâtre, comme s'il n'a pas de Dieu. Il y a une mara là-bas, le traité Ktubot, terrible, qui dit, il y a un homme qui vient voir un des rabbanim là-bas, je crois qu'il s'appelait Rav Yuda, et lui dit, écoute, j'ai un problème, mon frère est décédé à l'étranger et sa femme n'a pas d'enfant. Il y a une mitzvah qui s'appelle le Lévira. C'est-à-dire que le frère doit aller maintenant se marier avec la veuve pour qu'il y ait un reste, une descendance, quelque part, au nom du défunt. Aujourd'hui, on ne fait plus cette mitzvah de se marier, on fait une chalitza, on fait une cérémonie, on fait une combine comme ça, qui permet de libérer l'âme du défunt, qu'elle... On libère la veuve de l'âme du défunt qui est avec elle encore. Mais à l'époque, vous avez le hiboum. Hiboum, c'est se marier, le lévira en français. On se marie avec la veuve pour laisser une descendance au nom de la famille. Alors, ce frère vivant vient voir le rabbin et dit, écoute, moi j'ai un problème. Mon frère décide maintenant à l'étranger. Je dois descendre maintenant, aller en descendant. Je vais faire l'alia, c'est monté. Je dois descendre d'Israël. Est-ce que j'ai le droit de descendre à quitter la terre d'Israël pour aller faire le Lévira, cette mitzvah, avec cette femme? Le rabbin répond une parole incompréhensible. Et Rachid sur place n'explique absolument rien. Il dit, son frère est mort parce qu'il s'est marié avec une goya. et maintenant lui, le frère vivant, va aller le rejoindre. Je ne comprends pas. C'est pas une Goya. Parce que si c'est une Goya, il n'y aurait pas de mitzvah de l'Iboum, de l'Evira. Ça veut dire quoi? Marcha sur passé dessus comme ça, il dit. Le rab a voulu le choquer, lui a dit, sache, ton mari, ton frère qui était là-bas, marié avec une juive, à l'étranger, quelque part, c'est comme s'il n'arrivait qu'une Goya. Et toi maintenant tu veux rentrer, tu veux aussi te marier avec une Goya, elle est juive. Mais le fait qu'il était de la terre de l'étranger, c'est tellement, tellement mauvais, comme ça dit la Gemara, que c'est comme si tu allais maintenant te marier avec une Goya à l'étranger. C'est une Gemara, prétexte tout voit, pas le sens. Donc ça existe ces choses-là, simplement. Durant 2000 ans, on ne pouvait pas venir en train de ça parce que pour des raisons politiques ou des raisons de Parnassa. Aujourd'hui, on peut, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes éducatifs. C'est difficile. Ici, très souvent, des familles viennent avec les parents, sont amoureux d'Israël, les enfants partent dans les choux complètement. Ils vont à Ashdod, là-bas, il y a des virus, quand ils voient des cheveux blonds, les enfants juifs, ils commencent à divaguer déjà, d'accord. Et beaucoup d'enfants quittent la Torah en venant en Israël. Les chiffres sont très clairs. On prend l'alia générale, pas française, l'alia générale dans le monde entier. Sur 100% de gens qui font alia, les chiffres disent que 80% ça provoque chez eux une baisse au niveau spirituel. Et que pour 20% c'est une montée spirituelle. Mais c'est pas pour autant que nous disons non, nous sommes des fervents de l'alia en Israël. Mais que ce soit une alia, alia c'est une montée. Montée spirituelle ou en Israël. Il faut monter en Israël pour plus de Torah, pour plus de Kdusha, plus de sainteté, aller dans les quartiers religieux, les quartiers non religieux. C'est dangereux, il y a des mauvaises fréquentations. Vous me direz, en France aussi, oui, mais en France, ou à l'étranger, il y a les goïms. On sait que c'est un peu différent. Il y a nous, il y a eux. Ici, on est entre juifs. Et puis, je dois dire que les Israéliens sont bien plus belles que les Françaises, désolé. D'accord, donc, il y a un grand Yetzerara, il y a un grand Yetzerara. Et puis, à l'armée. Alors aujourd'hui, il y a un Nahal Haredi, il y a une partie qui est vraiment religieuse. Mais l'armée habituelle n'est pas religieuse. T'as des garçons et filles de 18 ans sans leurs parents, qu'est-ce qu'ils font? La fête. Hein? On fait la fête à l'armée. Donc c'est dangereux. Alors je dis, en aucun cas qu'on doit rester à l'étranger, on doit monter en Israël. Mais attention, ils sont précautionneux, réfléchis. C'est extrêmement difficile, compliqué, délicat de monter en Israël. Est-ce qu'il faut le faire le plus tôt possible, c'est le mieux. Si on n'arrive pas, si on ne peut pas, alors c'est-à-dire que Dieu nous dit, restez encore à l'étranger. Pourquoi je suis en train de parler maintenant de monter en Israël? Pour parler de la paix. Où est-il le rapport? Où est-il le rapport? Ah, on voulait la paix. Bon, je commence à dire qu'on interdit Israël, c'est une chose qui est extraordinaire. Grâce à Dieu, on doit remercier Dieu sans cesse. Et c'est une grande mission d'habiter la terre d'Israël. Pourquoi il n'y a pas la paix? Tout simplement. C'est très simple. En Israël, tu es aujourd'hui, une grande partie du peuple qui, hélas, ne connaît pas la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Hélas, il empêche la paix. Pour nous rappeler, t'es un peuple différent. Voilà. Des questions encore là-dessus, mon cher ami?
Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est certain qu'il n'y aura pas la paix, mais est-ce certain. Que pour autant, est-ce qu'on peut l'espérer quand même?
On peut espérer qu'il y ait moins de malheur. On doit prier, bien sûr qu'on doit prier, qu'il y ait moins de malheur, etc. Il ne faut pas rêver. La paix signifie plus de sainteté, plus de présence divine. Le nom de la paix, c'est le nom de Dieu. Il faut amener Dieu. Dieu est le seul qui peut amener la paix. Comment tu veux qu'un milliard, rationnelle, 1 milliard 300 millions de musulmans autour de nous qui considèrent que tu es une épine dans leur pied? Pourquoi serait la paix? Pourquoi serait la paix? Anormal. Impossible.
Oui. C'est pas entre nous, c'est pas entre avec les autres pays qu'on n'aura pas la paix ou même entre nous
Le jour où on fera la paix entre nous, alors il n'y aura pas avec les autres. La raison pour laquelle nous sommes encore en galoute, c'est bien on en parle maintenant seulement les 3 semaines, la raison pour laquelle nous sommes encore en galoute, comme la Gemara, regarde, le premier temple a été détruit parce qu'il y avait 3 péchés graves. L'assassinat, interdiction sexuelle et idolâtrie. Le deuxième temple a été détruit parce qu'il y avait le péché de sinatrinam, de haine gratuite. La Gemara pose la question, qu'est-ce qui est plus grave? Les 3 péchés graves ou la haine gratuite, sinatrinam? Elle dit, regarde, le premier temple qui a été détruit a été reconstruit après 70 ans, 70 ans d'exil. Le deuxième temple n'a pas été reconstruit. 2000 ans bientôt que nous sommes, 1930 et quelques années, bientôt 1940 années que nous sommes en exil. Donc il est certain que la raison numéro 1 pour laquelle nous sommes encore en exil, c'est la haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite? C'est Ashkenazim qui n'aime pas Sfaradim, Sfaradim qui n'aime pas Ashkenazim. Attends, en Sfaradim, les Moyen-Orientaux qui n'aiment pas les Nord-Africains. Il y a un Nord-Africain qui n'aime pas les Moyen-Orientaux. Les Nord-Africains, c'est les Tunisiens qui n'aiment pas les Marocains. Les Marocains n'aiment pas les Tunisiens. Attends, au Maroc, c'est le Maroc du Sud qui n'aime pas le Maroc du Nord. Le Maroc du Sud. Au Maroc du Sud, toi aussi, t'as ceux qui viennent du Chleur, et ceux qui viennent de Truy, à Colombéchard et de Filadette. Mais attends, dans la même ville, t'as aussi le même quartier. D'accord, et t'as le voisin, t'as la voisine, et t'as la sœur, et t'as la... C'est à tous les niveaux. Il y a un travail énorme à faire à ce niveau-là. Énorme. Au Hachem, il y a aussi d'un autre côté un grand réveil. Dans le peuple d'Israël, beaucoup de gens qui font, durant ces semaines-là, il y a beaucoup de conférences ici en Israël, de grandes assemblées. Justement, pour travailler sur la Shonara, c'est une chose qui était inconnue encore quelques dizaines d'années. Le Rafa Sanem est vraiment l'accent, il faudrait qu'on en parle très prochainement, la gravité du lâche par les mains sur son prochain, pour justement arrêter cette sinatrinam, cette haine gratuite. On doit s'aimer dans ses efforts dans ce sens-là. S'il y aura une unité ici en bas, il y aura une unité, Dieu viendra parmi nous, et ça sera la paix pour le peuple d'Israël. À l'époque, regarde, c'est terrible, les Bnei Israël étaient obdé à Vodazara, ils étaient idolâtres. Ils partaient en guerre, ils gagnaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Et là, sur l'époque où ils étaient tous chômeurs Torah, disaient la Torah, mais ils étaient désunis, ils sortaient en guerre, ils perdaient la guerre. Dieu dit, ce qu'ils font la tour de Babel, il dit, ils sont tous unis maintenant, je ne pourrais pas les arrêter. Ils réussiront ce qu'ils veulent faire, créer une tour pour se battre contre Dieu. L'union tellement, elle fait la force. Dieu vient et les disperse. Comment? Il crée toutes les langues, il ne peut plus se parler. L'union, c'est une chose qui est énorme. Si un Israël arrive à être uni, plus aucun ennemi pourra nous faire une petite gifle, quoi que ce soit, on ne pourra pas nous toucher.
Et c'est normal que des fois, il y a des gens, on ne peut pas se les voir peut-être naturellement, ou parfois, des gens qui nous agacent énormément.
Oui.
Mais est-ce que ça s'appelle du sinatrinam?
Oui, ça s'appelle sinatrinam. Parce que c'est ça, rien, ça veut dire. Comprends que la nature, elle est anti-divine. La nature, elle est animale. La divinité, elle est contre la nature animale. Donc si maintenant Dieu m'a ordonné de ne pas haïr quelqu'un de façon gratuite, ça veut dire que j'ai une pulsion naturelle de oui le haïr. Alors c'est pas le type avec qui je vais bien. Le type, dès que je vois, ça passe pas. J'aime pas leur façon d'être. J'aime pas leur façon d'être, ces gens-là. Ou celui-là. D'accord? Mais il t'a rien fait. Je ne peux pas supporter. Ça, c'est ça, c'est un tribunal. C'est exactement ça.
Et s'il a fait quelque chose?
S'il a fait des lois de haine qui, quoi, comme on n'a pas le droit de haïr. Mais aussi, quelqu'un m'a fait quelque chose. Si quelqu'un m'a fait quelque chose de mal, j'ai pas le droit de l'haïr. Je dois aller le voir, lui dire, écoute, tu m'as fait une chose qui est mal. Alors, est-ce que tu sais que tu m'as fait quelque chose de mal? Je m'excuse, j'ai pas fait attention. Je m'excuse, ok, il s'excuse très bien. Ou bien, il t'explique, non, j'aurais fait de mal. C'est moi qui avais mal compris. La communication fait qu'il y a la paix. Si on communique, il n'y a pas de paix. Lui me dit, je t'ai fait du mal, et tant pis pour toi. Je reconnais que je t'ai fait du mal, mais moi c'est comme ça, moi c'est comme ça, paix, ça ne plaît pas, c'est la même chose. Donc il reconnaît qu'il a fait du mal, et malgré tout, il veut être en situation de mal contre moi. Seulement après cela, où je fais une tentative d'amener la paix et je n'ai pas réussi, j'ai le droit de le haïr. C'est permis.
Ah, mais ça m'intervient de la Torah, je pense.
Non. Alors haïr, gratuitement. Mais s'il y a maintenant une haine qui est motivé par une chose, comme je viens de dire, pas que moi je crois, j'ai mis ça de tochecha, d'aller corriger la personne, d'aller lui expliquer pour arriver à la paix. On s'est expliqué, et lui dit après tout, je sais que je t'ai fait du tort, mais pour moi c'est plus fort que moi, je ne veux pas m'empêcher, et tiens, voilà pour toi, ok. Là, il n'y a plus la paix, il n'y a plus la paix. Mais ça non, moi d'amener des gens, essayer d'amener la paix quand même. Déjà, si quelqu'un me fait du mal, et moi j'ai la haine pour lui, un autre cas où la haine est permise, si je vois quelqu'un qui fait une avéra, il n'y a pas de témoin. J'ai vu quelqu'un maintenant partir avec une prostituée. D'accord? Maintenant, ce type-là, je suis au courant, mais il n'y a pas eu de témoin. Je ne peux pas aller au Bedin et puis l'accuser, etc. J'ai le droit, moi, de le haïr.
Du moment que je...
Hein, pardon? On a parlé de ça une fois déjà ici. C'est vrai que d'après la Khayel Mahlok est là-dessus, on préfère dire qu'on va haïr ses avérotes, les péchés qu'il a fait, pas lui. Mais il était victime du etc. Hachem, que Dieu amène la paix parmi nous, on est maintenant dans les 3 semaines, c'est pas des blagues. Il y a un travail très sérieux à faire là-dessus. Je vous le dis maintenant très, très sincèrement. Enfin, je ne suis ni prophète ni fils de prophète. Je suis convaincu que le Mashiach il est très très proche et je me trompe toujours. Mais si je ne me trompe pas cette fois, c'est dommage de rater. C'était il y a 94. pendant ces 3 semaines, grosso modo, cette période-là, en un mois, sont décédés la femme du rabbin Eliashiv, le plus grand rabbin ashkenaz du monde, la femme du rabbin Ovdé Yosef, le plus grand rabbin sfarad du monde, la femme du rabbin Tzana Bachaou, le plus grand rabbin sfarad du monde, les deux plus grands rabbins sfarad du monde, en un mois. Et de plus, un grand rabbin énorme est décédé, le rabbin de Tzantz-Klausenburg, le admor de Tzantz-Klausenburg, qui est un géant de géants de géants de géants. Un homme qui a fait la Shoah entièrement, il était à Auschwitz, il n'a jamais mangé non kasher durant toute la Shoah à Auschwitz. Il n'a jamais fait Chilou Shabbat à Auschwitz. Il y a un bouquin écrit, antique, qui est écrit là-dessus, que je ne vois pas de traduire un jour en français, extraordinaire. Il a perdu ses 11 enfants, il est revenu en Israël, il a créé un quartier entier, toute une communauté, les Chassidim de Tzantz-Klausenburg, au nord de Netanya. Plus un hôpital, l'Aniado, un monsieur énorme. Comme ça, tu vois sa tête, c'est un ange. On est allé à l'enterrement du admor du rabbi de Tzantz-Klausenburg. On revient de l'enterrement, on voit les affiches que la femme de Rabbi Yoshiv est décédée. Un après l'autre. Terrible. La Rabbi Tzion qui a perdu sa femme, donc durant cette période-là, je suis allé un mois après le voir. Rabbi Samajou, c'était un des plus grands de la génération. Très souvent, j'avais parlé avec lui sur ma chiare, des sujets qui, comme ça, intéressants. Je lui ai dit qu'on a, c'est pas normal. 3 femmes qui sont décédées en un mois, plus le rabbi de Klausenburg, qui était un homme qui pouvait être le Mashiach, tellement il était grand. Ça s'est marqué, la femme, la mystique juive, elle l'appelait Malchut. Malchut, c'est la royauté. Malchut, la royauté, le Mashiach. Certainement, nous fait un signe du ciel. Dites-moi, certainement, Mashiach doit venir, quelque chose s'est passé. Il a fait, ah. Il paraît très peu, hein. Ah, ça veut dire, dommage. On était tout près. On était tout près. On a raté. On a raté d'un millimètre. Je suis convaincu que nous sommes tout prêts, comme d'habitude. Si ça devrait se mettre dans cette période-là, la période où ça a été détruit, là, Benjamin, ça va être considéré. Le Mashiach, il est né à Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on nous envoie des scouts sur des missiles de Syrie, des missiles syriens, des Katyusha, des missiles iraniens, Dieu nous dit, réveillons-nous. En paix avec l'autre, amour avec l'autre, fais un sourire, rien que ce sourire, comment ça fait du bien à quelqu'un, un sourire, aide-le, aime-le, prie pour lui, remplis-toi d'amour pour le peuple d'Israël, ça fait tellement de grandes choses dans le monde. Pas de lachon hara, pas de lachon hara. Ensuite, Torah, prière. C'est dommage si on est tout proche, on peut avoir l'occasion enfin qu'on finisse ces 2000 ans d'exil, et jusqu'au premier âge ici à Yerushalayim. Oui, encore une question.
Il y a un dit qu'il ne faut pas, se réjouir de la chute de ses ennemis.
Oui.
En ce moment, ça s'appelle se réjouir de la chute de ses ennemis quand on demande à ce que ça rentre sur les Palestiniens ou des choses comme ça.
Pourquoi? C'est marqué. Il ne faut pas se réjouir de la chute de nos ennemis pour pas que Dieu arrête de les faire chuter. D'accord, donc on est intéressé qu'ils chutent. Maintenant, il ne faut pas partir avec des tambourins, des cortèges et commencer à faire... D'abord, c'est pas noble, c'est pas digne. On a appris qu'il y a des morts palestiniens. Oh, on va... Eux, quand il y a un mort chez les juifs, un avion qui était rassemblement abattu ou autre truc, oh, tous des cortèges dans la rue, oh, ils ont tué des juifs. C'est pas notre façon de faire. C'est pas notre façon de faire.
Pardon, quand il y a
nous, on n'est pas heureux
de chez eux qui est tué, on dit, va au prochain, mais on tue celui-là, ou des trucs comme ça.
On dit pas ça.
Nous ne sommes pas heureux que des hommes meurent. Nous sommes heureux que des ennemis de Dieu meurent. Ok, dans cette mesure-là, oui. Mais. Avec du hipouk, avec la retenue. Avec ça. Heureux là. Baruch Hashem, le nom de Dieu se sanctifie parce qu'il y a moins d'ennemis de Dieu dans le monde. Pas là. Tu comprends? C'est la joie. C'est une chose qui est très intérieure. C'est pas les tambourins et les cortèges dans la rue.
Juste une question technique. Ma chérie, il n'est pas censé venir à Pessah. Dans ce cas-là, il nous resterait 8-10 mois. On a encore un peu de temps.
La Géoula est à Pessah. La Géoula est à Pessah. Mais tout le.
L'annonciation.
Tout le. Les Parasus, Gogo Magog, il y a beaucoup de chance.
Mais lui, il sera dévoilé à Pessah.
Non. On ne sait pas quand il sera dévoilé.
Soukot.
C'est marqué Gogo Magog, il est à Soukot normalement. C'est marqué le Mashiach, il est né à Tisha B'Av. C'est marqué qu'il n'y a pas eu de jour plus saint au peuple d'Israël que tout Béab, le 15 de Av. Alors espérons que c'est pour maintenant. Et sinon,
pas tout Béab, c'est un jour saint.
C'est pas clair. C'est marqué Loayum, c'est marqué comme ça. Il n'y a pas eu de jour aussi saint au peuple d'Israël que Yom Kippour et tout Béab. comme il est dit, ça continue après, après comme il est dit, et où Notion, ou Bamelech, Shomo, Batarash Italo Imo, Beyom Hatunato, Beyom Sinsalibo. Allez voir le roi Salomon, parce que son nom c'est Dieu, d'accord? Le roi dont le Shalom, Shlomo Shalom, et le Shalom lui appartient, Batarash Italo Imo, sa couronne que sa mère lui a fait, sa mère, c'est la Knesset Israël, c'est le peuple d'Israël. Yom Hatunato, Yom Simchatibo. Yom Hatunato, le jour de son mariage, c'est Matan Torah, c'est le don de la Torah au Mont Sinaï. Yom Simchatibo, le jour de la réjouissance de son cœur, c'est la Géoula, le jour où le Bet Hamidrash va être construit. Donc, on voit qu'il y a un rapport entre le 15 du mois de Av, qui dit dans la Mishnah, il n'y a pas de jour plus grand que c'est Yom Simchat Libo, le jour de réjouissance de son cœur. Donc espérons que Dieu amènera le Mashiach. Je connais, Bezrat Hashem, qu'il ait pitié de nous, le peuple d'Israël fait pitié, que Dieu comprenne que tous les péchés qu'il y a, c'est pas nous, c'est le Erevra, c'est le Etzerava. Je dis très souvent, je prie à Dieu, je dis, qu'est-ce que tu veux? Moi j'étais en France maintenant, ok? Tu mets un jeune homme face à toutes les bonnes femmes qui vont habiller complètement n'importe comment. J'ai deux bons amis qui sont devant le Rav Ben Sion. J'ai entendu ça il y a deux semaines. D'un élève de Rav Ben Sion, le bras droit de Rav Ben Sion. Lui était avec un autre ami. Il était le voir, lui ont dit qu'il faut d'arabe. C'était vrai à la fin de sa vie. Pourquoi ma chère ne vient pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors lui, il a fait avec la main. Il parlait très peu. Hein. Bon, il a tout un stock avec les mains. Il a fait comme ça. Je vous montre debout. C'est quoi ça? Mini-jupe. Mini-jupe. Donc il y a un problème aussi, il y a ça. Donc que Dieu ait pitié de son peuple, qu'il comprenne qu'on est des hommes et qu'on fait tout pour revenir, pour qu'il y ait beaucoup de bons juifs qui reviennent. Par le mérite, c'est marqué dans la Torah que pour un qui fait tchouva, Dieu peut pardonner au monde entier, que Dieu nous pardonne, qu'il amène, qu'il voit l'unité du peuple maintenant, il y a la guerre, tout le peuple d'Israël prie, le peuple d'Israël veut venir en Israël, nous voulons être tous des avadim, des serviteurs de Dieu. Ceux qui n'ont pas compris, on voit que facilement lorsqu'on leur explique, ils reviennent, que Dieu envoie un flux de lumière à tous nos frères qui sont loin de la Torah, et c'est clair, et qui amène ma chère bientôt, Bimar Ben Noam.